Je vais vous inviter à ouvrir l'évangile de Jean et le chapitre 12. Alors que je réfléchissais, je ne vais pas dire que c'est une suite de dimanche après-midi, mais je réfléchissais encore à cette question que le jeune homme riche a posée à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et je me suis rendu compte que dans la Bible, et en particulier dans les évangiles, et dans le Nouveau Testament même, il y a une multitude de réponses. Une multitude de réponses à cette question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et ceux qui étaient là dimanche après-midi se souviennent qu'on a parlé de la piété. Exerce-toi la piété, car elle a la promesse de la vie présente et la vie à venir. Ce soir, on va étudier carrément autre chose, mais c'est toujours dans la promesse de la vie éternelle. Jean chapitre 12, on va lire à partir du verset 23. Jean chapitre 12, verset 23, Jésus leur répondit, donc à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Et je voudrais attirer votre attention sur ce verset 24, et je le relire avec vous. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et la suite, on l'a vu, on répond à la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Celui qui est sa vie la perdra, mais celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra, mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ce soir, je me propose simplement de vous parler d'un autre multiple moyen dont la Bible nous parle pour obtenir la vie éternelle. Et là, en particulier, il s'agit de mourir à soi-même. Et je voudrais même énoncer un principe que Jésus a très bien formulé, mais il a même donné une image. Il a dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, moi je voudrais vous proposer simplement que la mort engendre la vie. Le retenir sous cette forme-là. La mort engendre la vie. Il y a peut-être une expression aujourd'hui qui se rapproche, il faut un mal pour un bien. Vous connaissez cette expression? On l'emploie de temps en temps. Moi je voudrais simplement la formuler en reprenant les paroles de Jésus, la mort ça engendre la vie. Et l'exemple du grain de blé, il est évident. Il n'y aurait même pas besoin d'explication. Je vais me permettre de donner juste 2-3 détails. Le grain de blé, c'est quelque chose qui est une espèce de carapace, une écorce, et on le met en terre. Et s'il a les conditions requises, de ce grain de blé va éclore ce qu'on appelle le germe. Et ça va devoir transpercer cette écorce-là, et à partir de ça, il va pousser une plante, et à partir de cette plante, il va pousser des épis, et à partir de ces épis, il va y avoir d'autres grains de blé. Donc ça nous parle de mort, le grain de blé doit mourir à un moment donné dans ce sens, qu'il doit s'ouvrir et laisser place à la vie, et cette vie, ça nous parle aussi de multiplication, parce qu'il n'est pas question d'un seul grain de blé, mais question de plusieurs. Et si le grain de blé ne trouve pas cette terre favorable, si le grain de blé n'a pas les éléments propices, n'a pas l'eau qu'il faut, il va rester là, dans la terre, tout seul, sans porter de fruits. L'image, elle est simple. Mais si je dis « la mort engendre la vie », de quelle mort je parle? Et je voudrais tout de suite qu'on mette les choses au clair, il ne s'agit pas de la mort physique. C'est évident, Jésus lui-même, il en a parlé, il n'est pas question de mort physique. Dieu ne demande pas à quelqu'un de mourir. Il a demandé à une seule personne de mourir, et cela dans des conditions bien précises, bien définies, parce que c'était une personne sans péché, on l'a chanté, quelqu'un d'innocent. Et c'était sa mort à lui qui pouvait donner la vie. Sa mort physique, entre autres, mais pas que. Et c'est cette personne qui est susceptible, la seule susceptible de donner sa vie physique. Nous, on n'a pas à donner notre vie physique. La mort que Dieu nous demande, c'est la mort intérieure, la mort de nous-mêmes, la mort de notre moi, C'est cette mort-là que le Seigneur nous demande. Et qu'est-ce que ça signifie, mourir à soi-même? Et je voudrais d'abord commencer en vous disant ce que ça ne signifie pas. Ce n'est pas abandonner le mal parce qu'on a peur des conséquences. Ça, ce n'est pas mourir à soi-même. Quand on connaît la rétribution, la colère, et on évite de pécher à cause de ça. Ce n'est pas la mort à soi-même, ce n'est pas parce qu'on a les yeux fixés sur la récompense, alors on arrête de faire le mal. C'est pas ça, mourir à soi-même. Parce que dans ces deux cas, on voit que c'est intéressé. D'accord? C'est pas quelque chose de désintéressé. C'est vraiment parce que on y a à gagner ou on y a à perdre. Alors on arrête de faire le mal. C'est pas ça. C'est pas quand notre santé, notre réputation, notre richesse est en jeu qu'on arrête de faire le mal. Ça, c'est pas mourir à soi-même. Puisqu'encore une fois, on y trouve un intérêt. En bref, tout ce qui est fait dans un motif égoïste, même si c'est du bien, ce n'est pas mourir à soi-même. Tout ce qui a une illusion, une apparence de mourir à soi-même, mais qui est fait dans un motif intéressé, ce n'est pas la mort à soi-même dont la Bible parle, dont Jésus parle. Parce que c'est juste la forme qui change. Il n'y a que la forme. Mais, à la base, c'est toujours faire le mal. Exemple, vous connaissez, moi j'ai entendu parler de certaines personnes qui, par exemple, qui font des enfants. On pourrait dire, ah, c'est bien, ils vont donner de leur vie, de leur temps pour leurs enfants, mais en fait, ils font les enfants pour les allocations que ça va leur apporter. Vous voyez la différence entre des parents qui s'aiment et qui font des enfants pour pouvoir leur donner toute leur éducation, tout leur amour, tout leur soin, pour pouvoir leur apporter tout ce qu'ils ont entre les mains. Ça change de ces personnes-là. Et là, c'est vraiment une mort à soi-même dans ce sens qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, ils s'investissent dans leurs enfants. Mais ceux qui ils font les enfants pour ce que ça va leur apporter, ah, j'en fais 5 comme ça, j'aurai plein d'allocations familiales. Et j'en connais des gens comme ça. Mais c'est pas ça, la mort à soi-même. C'est comme cette personne, j'en ai déjà vu, qui prie pour son mari qui est inconverti, prie de tout son cœur. Seigneur, bénis mon mari, touche-le, touche son cœur. Et quand on creuse un peu plus pour savoir quels sont ses motifs, parce qu'en apparence, tout c'est très bien. Est-ce que c'est bien de prier pour que son mari se convertisse quand il n'est pas? Bien sûr. Mais quand on creuse les mobiles, en fait, c'est j'en ai assez qu'il se moque de moi, j'en ai assez qu'il m'empêche d'aller à l'église, j'en ai assez, en gros, d'être persécuté ou d'être moqué à cause du Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas contraire à ce que Jésus nous a dit? Totalement contraire. Heureux serez-vous quand on vous persécutera. Heureux serez-vous. Si le mobile de notre épreuve, entre guillemets, notre difficulté, et qui fait qu'on est poussé à prier, si le mobile il est égoïste, Dieu ne peut pas répondre à la prière. C'est évident. Même pas besoin de s'attarder là-dessus. Ce n'est pas non plus la mort à soi-même, une espèce de tristesse. Des fois, on a cette impression que la mort à soi-même, c'est une sorte de tristesse qu'on nous impose, qu'il faut il faut être triste, il faut se faire douleur, violence, une espèce de sentiment là, de difficulté, une espèce de défaut de notre chair, on essaie d'avancer comme on peut. C'est pas ça la mort à soi-même, dont la Bible parle. La mort à soi-même, elle est toute simple. C'est un choix de soumission, c'est un choix, donc c'est notre volonté qui entre en action, de se soumettre à la volonté du Seigneur, tout simplement, et de faire le bien, et de chercher le bien des autres et de Dieu avant notre propre bien à nous. C'est ça la mort à soi-même. Et si la mort engendre la vie, on a parlé de la mort, mais maintenant on va parler de la vie. C'est quoi la vie qui est engendrée par cette mort? Ce n'est pas la vie physique, encore une fois, mais c'est la vie spirituelle, la vie de Dieu, la vie d'en haut. C'est cette vie qui peut apporter tout ce que le péché nous a enlevé. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est bien ton histoire, c'est bien ta petite phrase choc, la mort engendre la vie. Mais est-ce que c'est indispensable d'y passer? Et j'aimerais vous dire que oui, parce que si nous sommes dans une vie physique, et c'est bien le cas, nous sommes aussi dans une mort spirituelle quand nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. Quand le péché règne sur nous, nous sommes dans la mort spirituelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Et vivre avec le péché, c'est manquer le but de sa vie, manquer le but que Dieu avait prévu pour notre vie. Et il y a cette compréhension
Il y a ce langage qu'employaient les archers à une époque, au temps biblique, quand ils loupaient la cible. Vous imaginez un archer qui prend son arc, qui prend sa flèche, il vise la cible et tac, ça se plante à côté, dans l'arbre du coin. Et il dit, le mot qu'il employait à l'époque, c'était « j'ai péché ». J'ai manqué la cible. Et c'est dans ce sens que la Bible parle du péché, mais dans ce sens spirituel. Quand une vie manque la cible, quand une vie va à la mort, c'est pas du tout ce que Dieu avait prévu. Dieu a prévu la vie. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort avant. La mort à soi-même. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'indispensable. La vie physique vécue sans une mort au péché, c'est manquer le but de sa vie, tout simplement. Et le résultat, c'est la mort spirituelle. Sans mort à nous-mêmes, il n'y a pas de vie de Dieu. C'est tout. Et on va lire Romains, chapitre 8. Heureusement, le Seigneur, il a travaillé en notre faveur. Romains, chapitre 8 et le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc on voit que la vie de Dieu est la seule capable, par l'esprit de Dieu, de nous affranchir de cette loi du péché qui conduit à la mort. Et j'aimerais vous, maintenant, simplement, regarder dans la nature que c'est un principe qui est vérifié et vérifiable. Là, c'est de manière pratique. Par exemple, un exemple qu'on connaît bien, on en y a affaire tous les jours. Pour notre nourriture, qui nous donne la vie. Vous êtes d'accord, si on ne mange pas, au bout d'un moment, on ne va plus avoir de vie. Bon, ça, c'est logique. Mais où je veux en venir, c'est que notre nourriture qui se trouve dans notre assiette, je vais vous faire une grande révélation, mais le poulet qui est dans la barquette, il ne naît pas comme ça. Le poisson pané, il n'est pas carré comme ça dans la barquette depuis sa naissance. Comme on pourrait le croire, certains enfants du moins ils le croient. Ça vous est jamais arrivé de connaître des enfants qui croyaient qu'on pêchait les poissons carrés? Moi j'en ai connu. Mais on est dans un temps aussi, il faut le dire, où on n'est plus, chacun n'a plus son poulailler, ses poules, ses coques, ses animaux, sa ferme à la maison. On va au supermarché du coin, tout est prêt, tout est embarqué, tout est emballé, tout est nickel, on n'a plus qu'à le faire cuire. Mais il y a une époque encore pas si lointaine où on était obligé de prendre la poule qui était encore vivante et d'aller, clac, la décapiter, la voir courir un peu tout sans sa tête. Je l'ai vu, j'ai habité en Afrique, on a passé quelques moments comme ça, où on se préparait les aliments. Et c'est important de se rendre compte que tout ce qu'on mange, à un moment donné, si c'est de la viande, ça a été tué, si c'est la verdure, j'allais dire, pour les végétariens, ça a été coupé à un moment donné. Coupé des racines, coupé de l'arbre, et la sève que l'arbre donnait aux fruits, elle ne coule plus, elle est coupée. Donc la vie a été coupée à un moment donné. Dans ce sens, il y a eu une mort. C'est dans ce sens-là que c'est à cette image-là que je veux arriver. Tout ce que nous mangeons, tout ce qui nous donne la vie, à un moment donné, a dû être coupé, a dû connaître une certaine mort, une forme de mort. Et la même image se trouve dans la maman qui donne la vie à un enfant. Elle le fait au prix d'immenses souffrances. Enfin, je peux vous en parler, mais je peux vous en parler que par des mots, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que ça fait mal. Je crois à ceux qui l'ont vécu. Mais imaginons un instant que ça soit possible, parce que heureusement ça ne l'est pas, mais que la maman, elle refuse de souffrir. Je ne veux pas souffrir. Elle refuse. Et on sait pertinemment que si elle persiste, si elle pouvait, du moins, si elle pouvait retenir l'enfant, parce que c'est son corps qui l'oblige à ce qu'il sorte, mais si elle pouvait retenir l'enfant, si elle pouvait le garder pour ne pas connaître la souffrance, si elle voulait ne pas vivre ce genre de mort à soi-même, elle ne donnerait pas la vie, tout simplement. Et au contraire, elle risquerait même de faire mourir son enfant et elle-même, au bout d'un certain temps. Vous voyez que cette image revient. Le papa, lui, il n'a pas les mêmes souffrances du tout. Le papa, par contre, il va mourir à cet amour exclusif qu'il avait avec son épouse. Il est obligé maintenant de prendre en compte son enfant. Il est obligé de faire attention et il est obligé de ne plus considérer que sa femme, mais considérer sa femme et c'est son enfant. Donc il est obligé d'abandonner. Et en fait, c'est là où je voudrais en venir, c'est que la mort dont on parle, c'est un renoncement, mais un renoncement définitif. On renonce définitivement à quelque chose. Le papa en question, il va renoncer définitivement à aimer que sa femme. Il va aimer sa femme, mais ça va découler qu'il va aimer aussi son enfant, dans ce sens-là. Donc la mort va engendrer la vie, parce que du coup, il va pouvoir apporter tous ses soins également, toute la sécurité, tout l'argent dont il a besoin à sa famille. Et combien, on en parlait juste avant, mais combien de problèmes de nos informations seraient résolus si on faisait attention rien qu'à ça? Si les parents faisaient attention à mettre tous leurs efforts, à donner leur vie, littéralement, mais dans le bon sens, à tout faire pour que leur enfant aille bien et vive dans de bonnes conditions et une bonne éducation et connaisse la parole de Dieu, c'est encore le top, parce que beaucoup de problèmes seraient résolus à ce moment-là. Il y a cet exemple, pour bien vous imaginer encore cette sorte de mort dont la Bible nous parle, cet exemple, c'est d'un ouvrier. Un ouvrier qui avait, alors je ne sais pas s'il était mineur ou s'il travaillait dans une usine, je ne sais pas, mais je sais qu'il avait un travail très dur, un travail très physique. Et donc il travaille toute la journée, il finit à je ne sais pas quelle heure, 18h, 19h, il finit tard, il est fatigué, il passe devant une boulangerie, elle est ouverte, il lui reste quelques piécettes dans la poche. Alors il va à la boulangerie et avec le peu de piécettes qu'il a, il achète une baguette de pain. Puis il rentre chez lui avec sa baguette sous le bras, il est content, il dit « Ah, je vais pouvoir enfin manger, me reposer ». Et puis, tout à coup, il passe devant une maison qui est à moitié en ruine. Et puis il voit une petite fille qui est là, qui l'attend au portail. Enfin, elle l'attend pas, mais elle le voit passer du moins. Et elle lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai faim ». Et il voit vraiment qu'elle est amaigrie, il voit qu'elle a les yeux en pleurs, il voit qu'elle est affamée. Alors il s'arrête, puis il réfléchit, mais j'ai que cette baguette, je ne peux pas en plus en racheter. Puis il continue quand même, il suit la petite fille, elle le fait rentrer dans sa maison, et dans la maison il voit une maman qui est couchée parce qu'elle est malade, il apprend qu'elle est veuve, et il voit d'autres enfants qui sont autour là, et les autres enfants ils sont dans les mêmes conditions que la petite fille. Et ils sont tous en train de dire, enfin il les voit du moins. Ils le disent pas tous, mais ils sont affamés. Lui se dit, mais moi j'ai faim, mais eux ils sont affamés. Et ce qu'il fait, pour nous ça nous paraît logique parce qu'on connaît Dieu, mais il va donner ce pain, il va donner tout ce qu'il a. Alors que lui il a vraiment faim, ça lui coûte quelque chose. C'est pas intéressé là, ça lui coûte quelque chose. Ça pourrait répondre à un besoin, mais il le donne à quelqu'un. Et ça c'est la mort dont la Bible nous parle, qui procure la vie, et donc qui donne ce pain. Et la famille peut manger enfin, après plusieurs jours où ils n'ont pas pu manger. C'est cette manière dont nous devons nous mourir à nous-mêmes. Nous devons simplement mourir à cet amour de la chose que nous aimons, si vous arrivez à me suivre. Mourir à cette chose qui nous... du moins à laquelle nous sommes attachés. C'est à cette chose-là que nous devons mourir. C'est cette chose-là que nous devons donner au Seigneur. Et on va voir que Jésus, dans une autre portion de sa parole, dans Luc au chapitre 14, il va un peu plus loin dans cette idée. Luc chapitre 14 et le verset 25. Et il dit ce texte dans des conditions alors qu'il voit qu'il y a des immenses foules qui sont en train de le suivre. Et lui, il sait pertinemment que parmi toutes ces personnes qui sont là, ces multitudes qui le suivent, il n'y en a pas beaucoup qui veulent être son disciple. Donc il est en train de les enseigner. Et il leur dit ça. Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Amen. Là, Jésus va encore plus loin. Et quand on lit ce texte au premier abord, je pense que moi, c'est la première chose que j'ai pensé, c'est que j'ai été choqué, tout simplement. Est-ce que Dieu nous demande de haïr nos parents, notre mari, notre femme, nos enfants? Est-ce que Dieu nous demande tout ça? Même notre propre vie? Est-ce qu'il demande de pas nous aimer? Et puis, en y réfléchissant bien, on comprend ce que le Seigneur veut nous dire. Et si on s'arrête à ce premier abord, en fait, on fait exactement l'inverse de ce que Dieu voudrait qu'on comprenne. Parce que là, il n'est pas question de haïr ces personnes-là. Le résultat, c'est pas ça. Mais il est question, j'ai dit ça comme ça, il est question de proportion et il est question de priorité. Et pour imaginer ça, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez une personne, une des plus grandes personnes de l'Assemblée. Alors, moi, la première personne qui me vient à l'idée, c'est Janson. Janson Cinerizzi, voilà. Vous l'imaginez à côté de moi, par exemple. Bon, vous allez voir tout de suite qu'il y a une différence de hauteur. Il y en a un qui est bien dans le ciel et un qui est plus terrestre. Vous savez, c'est moi. Et vous n'aurez pas tort. Maintenant, si on compare moi ou notre frère Janson à la Tour Eiffel, déjà, on commence à voir que c'est quelque chose de... La différence n'est pas significative, on est d'accord. Maintenant, on prend la distance du plancher au soleil, au centre du soleil, allez. Alors, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait 2 mètres ou 1 m 80 face à 150 millions de kilomètres, ça fait une grande différence? Est-ce que vous pensez que ça fait quelque chose de grand? Non. Ça fait rien du tout, c'est quelque chose de négligeable. On est d'accord? Ça s'apparente, si on fait un rapport, ça doit être 0,000, je ne sais pas combien de zéros, quelque chose. Et les deux seront quasiment pareils face à cette distance. Eh bien, c'est le même principe. Dans ce texte, Jésus ne nous demande pas de haïr notre frère ou notre femme ou nos enfants, il nous demande d'aimer Dieu en premier, parce que l'amour de Dieu, il a cette profondeur, cette longueur, cette immensité qui fait que tous les autres amours sont négligeables. Mais il ne nous demande pas seulement d'aimer Dieu tout seul. D'ailleurs, ça ne peut pas. On ne peut pas aimer Dieu tout seul et ne pas aimer les hommes autour. Mais quand on va aimer Dieu et en faire notre priorité, quand on va se laisser remplir de l'amour de Dieu également, on va pouvoir aimer notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et nos sœurs, de la meilleure des manières possibles. On va pouvoir leur donner, avoir cet amour qui donne la vie. Et combien de familles, dans ces temps de Noël, peut-être ne se réunissent pas parce qu'ils sont déchirés, faute d'avoir demandé pardon pour certaines actions, des vieilles actions qui remontent à des histoires anciennes, qui remontent à des lustres. Et ils sont là, ils sont chacun de leur côté, ils ne se réunissent pas pour des broutilles. Alors que la solution serait toute simple, serait de venir à Dieu et de demander pardon les uns aux autres. Encore cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'elle comprenait, elle a compris une chose. Et moi, j'ai dit, mais c'est super. Elle a compris qu'elle devait aller dire à son père qu'elle le pardonne pour tout le mal qu'il lui a fait. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de magnifique, ça? Et est-ce que la vie de Dieu, je lui ai dit, la vie de Dieu, il va être obligé de bénir une attitude comme ça. Quand quelqu'un va demander pardon ou pardonne, Dieu est obligé de bénir, parce que ça coûte de demander pardon, ça coûte aussi de pardonner. Mais Dieu, c'est sa volonté. Alors, il approuve les voies de quelqu'un qui va faire ses démarches. Donc, la vie, on voit que la vie de Dieu, elle ne vient que par la mort à soi-même, que par toutes sortes de formes de mort à soi-même qui sont totalement désintéressées. Le fait d'aimer Dieu d'abord, c'est une mort, un renoncement, mais ce qui en résulte, c'est la vie de Dieu. Et de cette façon, on aime plus les personnes, on ne les aime plus du moins de façon égoïste, mais on les aime de la bonne façon comme Dieu voudrait qu'on les aime, de façon désintéressée. Mais ça, c'est dans les principes qu'on voit dans la vie de tous les jours, je vais dire. Mais la parole de Dieu nous parle de Dieu lui-même. Et quand on regarde, quand on étudie précisément la vie de Jésus en particulier, on se rend compte qu'il nous a montré l'exemple de renoncement, de mort à soi-même. Dieu, il nous prouve le principe, mais il nous le prouve non seulement dans le Fils, mais dans le Père et dans le Saint-Esprit. Dieu, le Fils d'abord, ça paraît évident. Lui, il a donné sa vie physique. L'image, elle est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais le fait aussi de s'être dépouillé de sa nature divine, le fait d'avoir été en forme de Dieu, parce que c'est les mots qui sont employés dans Philippiens 2, il était en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a même pas pris la forme d'un humain, tout simplement. Il a pris la forme d'un serviteur. Est-ce que ça, ce n'est pas un renoncement à soi-même ? Déjà, lui qui était dans la gloire céleste, qui connaissait, il avait les anges, tous les anges du ciel qui le servaient. Il s'est abaissé et il est devenu lui-même serviteur des hommes. Dieu le Père maintenant. Sur la croix, Jésus il dit cette parole. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Dieu le Père, à un moment donné, il était obligé de détourner son regard de son Fils bien-aimé. Et nous, on lit ça vite et on se dit, oui, bon, il était péché, d'accord, et Dieu a dû... Mais on ne se souvient pas qu'au début, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a eu cette voix qui a retenti dans le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On n'imagine pas la relation qu'il y avait entre le Père et le Fils. On n'imagine pas que c'était un déchirement pour le Père aussi de donner son Fils. Non seulement de le donner, de laisser partir du ciel sur la terre, mais de le voir mourir pour tous les hommes et de devoir se détourner son regard de ce Fils qui n'a fait que toute sa vie l'honorer, qui n'a fait que toute sa vie le glorifier, qui n'a fait que rendre témoignage du Père. Tout ce que je fais, c'est le Père qui me permet de le faire. Je veux rendre témoignage de ce que le Père m'a donné. Si je guéris, c'est parce que je crois dans le Père. Jésus-Christ, il a passé de son ministère à parler du Père, de Dieu le Père, à honorer son Père, à lui obéir, à s'être soumis à lui. Et le Père, il est obligé de détourner son regard. Est-ce que ce n'est pas une mort à soi-même ? Je pense que oui. Maintenant, le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, à un moment donné, il a dû se retirer de Jésus, puisqu'il était péché. Et on sait que le Saint-Esprit, il est attristé par le péché, il ne peut pas rester non plus en présence du péché, il a dû se retirer de Jésus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je pense que Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais est-ce que le Saint-Esprit, toutes les fois qu'il vient dans le cœur du pécheur, et qu'il vient contester avec le pécheur, qu'il vient lui appliquer la vérité, qu'il vient essayer de le convaincre de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit qui est saint, c'est dans son nom, Il s'abaisse au point de venir dans le cœur de celui qui est pécheur aussi. Et il travaille son cœur. Et il est là, et il est là, et il reste. Et il essaye d'apporter la vérité. Il essaye d'éclairer le cœur. Est-ce que vous ne croyez pas que d'une certaine manière, il y a une mort à soi-même ? Bien sûr, si cette personne s'endurcit, si cette personne rejette la parole de Dieu, si cette personne refuse la vérité, à un moment donné, il est dit qu'il ne va pas contester à toujours. Mais c'est un renoncement à soi, le fait que le Saint-Esprit, qui est pur, qui est saint, s'abaisse à venir dans le cœur du pécheur pour l'amener à la connaissance de la vérité. Dans toutes ses formes, on voit que Dieu, il a connu le renoncement et que la mort qu'il a connue, d'une certaine manière, a engendré la vie sous tous les domaines. Ça a engendré la vie. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ce soir, on a la possibilité soit de faire comme les pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On a la possibilité de lire la Bible en essayant de trouver quelque chose qui va nous faire du bien, mais dans notre intérêt encore. On va essayer de trouver quelque chose qui va nous fortifier, nous encourager, mais pas nous faire aller plus loin avec Dieu. Quelque chose qui va nous conforter ou un petit bien passager, une petite émotion qui fait du bien, mais qui va nous amener nulle part. Les pharisiens, ils connaissaient les paroles par cœur. Ils connaissaient toutes ces choses sur le bout des doigts. Mais ils ne s'étaient pas rendus compte que toutes les Écritures parlaient de Jésus-Christ, rendaient témoignage de Jésus-Christ. Et nous devons lire la Bible, nous devons écouter la parole de Dieu en cherchant cette cette révélation que c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui veut nous parler. C'est Jésus-Christ qui veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que je dois abandonner pour qu'il soit encore plus présent dans ma vie? Qu'est-ce que je dois laisser de côté pour qu'il puisse avoir plus de place en moi? On a chanté « remplis-nous, Seigneur ». Eh bien, ce soir encore, je veux que tu me remplisses, mais montre-moi là où j'ai besoin de laisser des choses, là où j'ai besoin de faire la place dans ma vie pour que tu puisses me remplir, Seigneur. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La foi, c'est une forme de mort aussi. C'est la mort aux efforts, la mort au mérite par la chair, au mérite par tout ce que l'humain peut faire par lui-même. La foi, c'est simplement de croire ce que Dieu a fait. Et quand on croit, on a la vie éternelle, c'est ce qu'on vient de lire. Ézéchiel, chapitre 18 et verset 23, ça va être notre dernier texte. Et il est dit ceci, Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire... Est-ce que le méchant meurt? C'est une question. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort, ça c'est le verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur ne veut pas que nous mourions. Il veut pas que la finalité, la cible de notre vie, qui a été loupée, c'est de mourir, d'aller à la mort. Le Seigneur veut que nous vivions. Mais il nous dit très clairement comment faire. Convertissez-vous, tournez-vous, changez radicalement. Convertir, ça veut dire changer radicalement. Ça veut dire passer par le regret de tout ce qu'on a fait de mal. Ça veut dire se repentir, ça veut dire réparer si on a besoin que ça soit réparé, et ça veut dire réagir, avoir les bonnes réactions qui vont honorer Dieu. C'est ça le changement radical. Dieu ne veut pas que nous mourions spirituellement, mais il désire que nous mourions afin que sa vie coule, qu'elle coule en abondance et qu'elle coule même jusque dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que à cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, Seigneur? Nous comprenons que ta parole y répond très clairement. Ta parole est cette lumière sur notre sentier. Seigneur, tu nous montres que la mort engendre la vie, que la mort à nous-mêmes engendre la vie divine qui peut couler abondamment. Et Seigneur, je te demande dans cette soirée de toucher nos cœurs, Seigneur, de nous montrer encore là où on a besoin d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. C'est peut-être ces défauts ou ces choses qui sont en nous et que nous n'arrivons pas à abandonner. Permets-nous de réaliser que toutes les fois où nous mourons à nous-mêmes de façon désintéressée pour ta gloire, alors tu peux déverser ta vie. Il n'y a plus aucune barrière à ce que ta vie coule en abondance, à ce que tout ce que nos paroles soient remplies de ta vie, à ce que nos actes soient remplis de ta vie, du moment que nous renonçons à nous-mêmes réellement et que nous désirons faire ta volonté. Alors que Seigneur, que ça soit notre désir, que ça soit le cri de nos cœurs dans cette soirée, Seigneur, et que ton nom soit glorifié par nos vies, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.